badania europejskie.
Rozumiem tu Europę.
Rozkrucia Europej.
Stavrodromitis Europis.
Treffpunkt Europa.
The Hub of Europe.
Carrefour de l'Europe.
Daniel Desesquel.
Guillaume Meunier.
Bonjour, bonsoir et bienvenue au Carrefour de l'Europe. En matière de relance de la croissance, de gestion des migrations, d'intégration politique ou de manifestation de solidarité, il arrive à l'Europe de bégayer et parfois même de décevoir ses plus fidèles partisans. Mais il est un domaine où l'Europe excelle, c'est l'aéronautique. Et à l'occasion du salon aéronautique et de l'espace, Carrefour de l'Europe a posé ses micros au Bourget, au milieu des avions, le Bourget, le plus grand salon aéronautique au monde. Alors dans les allées du Bourget, le match entre Boeing et Airbus agite évidemment les esprits, mais derrière le succès de l'avionneur européen, des centaines d'industriels aux quatre coins de l'Europe s'activent dans le domaine des hautes technologies. Ils construisent des moteurs, aménagent les cabines, améliorent sans cesse l'avionique des cockpits. L'aviation est née en France avec le vol de Clément Ader, c'était en 1890. Depuis, l'aéronautique reste une passion européenne et un domaine de prédilection. Bonjour Patrick de Casablanca.
Bonjour.
Vous êtes le président d'Ader. Ader, c'est avions de transport régionaux. Merci de vous accueillir chez nous. Alors, on n'est pas dans un ATER 42 ou 72. On n'est pas sur votre stand. On est dans un lieu très particulier, très bourgeois. Ça s'appelle un chalet. C'est quoi un chalet?
Un chalet, c'est un endroit où on reçoit nos clients, on reçoit les fournisseurs, on essaye avec eux de s'entendre. Quand on n'a pas fini les négociations, les finir. Et puis, quand on les a finis, les célébrer.
Oui, parce que, évidemment, le Bourget, c'est un salon où le public vient très nombreux en fin de semaine. Mais du lundi au jeudi, c'est un salon très professionnel.
C'est une ruche. On a facilement 10, 12, 15 réunions par jour. Et c'est là où on retrouve tous les métiers, toutes les professions. On se retrouve tous là, tous les deux ans. Et on est heureux de se retrouver ici.
En tout cas, merci de nous accueillir chez vous. Jean-Paul Lebagin, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le président de CFM International. CFM International ne construit pas des avions, mais construit
des moteurs.
Et beaucoup de moteurs.
Et beaucoup de moteurs, effectivement. CFM International, c'est une co-entreprise entre la société française Safran et la société américaine General Electric, qui est aujourd'hui leader sur le marché des avions monocouloirs. Donc on propulse la majorité des avions qui volent dans le monde.
Et si vous avez pris un jour dans votre vie un Boeing 737, il était...
Vous avez volé avec du CFM. En gros, aujourd'hui, toutes les deux secondes, un avion d'école équipé de moteurs CFM dans le monde.
Pascal Rincemin, bonjour. Alors, vous bonjour. Ne construisez ni moteur ni avion. Vous êtes associé au cabinet Deloitte en charge de l'aéronautique. Vous êtes un observateur attentif.
Non seulement un observateur, mais aussi quelqu'un qui prétend apporter de la valeur, puisqu'on est au contact de l'ensemble des industriels du secteur, en France et au plan mondial, pour les aider à optimiser leurs opérations et parfois à définir leur stratégie.
Yann Kochtek, bonjour. Vous êtes le rédacteur en chef adjoint d'Aérocosmos. Aérocosmos, c'est évidemment l'hebdomadaire de référence en français dans le domaine de l'aéronautique et de l'espace. Évidemment, le Bourget, c'est toujours un moment important pour Aérocosmos.
Tout à fait, mais comme Monsieur Pincemann, nous sommes au contact. Et en contact tous les jours, et Monsieur Casablanca mentionnait une douzaine de réunions par jour. Nous, c'est une douzaine de conférences de presse à suivre. Alors heureusement, nous sommes assez nombreux pour se les partager, mais il est clair que notre vie est aussi animée que celle d'un constructeur.
Yann Kochtek, alors, le salon du Bourget est en train de fermer ses portes. D'un point de vue européen, c'est un grand salon en termes de prise de commande dans ce match Airbus-Boeing. On a toujours du mal un peu à y voir clair. Comment ça s'est passé? Est-ce qu'il y a des programmes qui ont été lancés? Est-ce que c'est une grande année aéronautique européenne?
C'est un très bon cru. Or, avant le salon, Marwan Laoud évoquait un bon cru. Il était modeste. C'est un très très bon cru. Je crois que ça n'a pas d'importance qu'il y ait 10 ou 20 ventes de plus d'une édition à l'autre. L'essentiel, c'est que Airbus et Boeing continuent à vendre des avions. Mais il ne faut pas oublier que les avions Airbus de Boeing ne volent pas sans des moteurs. Donc c'est clair que CFM a aussi réussi un très très bon salon.
Alors, dans le ciel du Bourget, il y avait deux avions qu'on a particulièrement remarqués. La 350 d'Airbus et le 787 de Boeing. Ce sont les deux grands concurrents sur le marché des longs courriers, très longs courriers même.
C'est exact, mais je crois que c'est peut-être pas si inaperçu, mais il y avait quatre avions Il y avait 2 à 350 et 2 à 787. Et ça, c'est un moment exceptionnel. C'est une présence exceptionnelle. Et ça montre bien tout l'enjeu et l'importance du marché sur lequel s'affrontent ces deux avions. C'est-à-dire que c'est un marché qui compte 6000 ventes sur les 20 prochaines années pour une valeur qui est presque équivalente à celle des moyens courriers.
Merci de Castelbajac. Alors, vous êtes à la tête, on peut dire, d'un petit Airbus. Hein. Airbus, c'est une association entre des Allemands, des Français et des Espagnols. Il y a eu des Britanniques dans un temps, mais enfin, on sait bien que les Britanniques et l'Europe, c'est toujours un petit peu compliqué. ATR, c'est un petit Airbus franco-italien.
Oui, ATR, c'est un Airbus à taille humaine, en fait. C'est effectivement le fruit du travail des Français et des Italiens qui, à un moment donné, se sont dit, au fond, sur le marché du régional, dans les années 80, eh ben, il faut qu'on mette ensemble nos énergies, nos ressources. Et ils ont créé l'ATR, qui est un avion donc turbopropulsé. Donc, c'est une technologie qui, à la fois, prend un peu du jet avec un peu de poussée, avec une hélice qui tire un peu devant, donc qui est optimale au niveau du fuel burn, donc qui consomme très peu. Et donc, sur des courtes distances, ça va beaucoup moins vite ou un peu moins vite qu'un jet, mais sur des courtes distances, c'est très performant.
Ça coûte moins cher.
Ça coûte moins cher, ça pollue moins. Et aujourd'hui, à telle enseigne que nous, sur les moins de 90 places, eh ben, on est dans les turbopropres, on a 80% de part de marché sur notre technologie. Et si on prend toutes technologies confondues, on est largement en tête, loin devant les autres.
Il y a des ATR qui volent dans le monde entier.
Il y a des ATR qui volent dans 90 pays.
Sur les 5 continents.
Sur les 5 continents. Et d'ailleurs, là, dans ce salon, on a vendu sur chacun des 5 continents.
Alors, justement, votre Bourget, combien de commandes? Qu'est-ce que ça représente pour vous comme chiffre d'affaires?
Comme chiffre d'affaires, on est à peu près à 2 milliards. Et en fait, on a vendu 46 avions. Mais ce qui est important pour nous, encore une fois, c'est plusieurs choses. Ça a été de vendre sur chacun des continents, d'abord. Ensuite, ça a été une percée au Japon. C'est un pays important dans l'aéronautique. Nous n'y étions jamais rentrés. Cette année, ça y est, on est rentré par la grande porte avec Japan Airlines, premier acteur du régional au Japon. Ensuite, on a également lancé une version haute densité de notre cabine, ce qui permet d'améliorer la rentabilité pour les compagnies aériennes. C'était important. On a signé des accords de coopération avec le Brésil pour le support. On a signé un accord important sur le développement de l'avionique avec Thales également.
C'est ce qu'on appelle un bon Bourget.
C'est un bon Bourget, absolument.
Jean-Paul Lebonga, alors on l'a dit, CFM fabrique des moteurs. Vous êtes en train de mettre la main sur un tout nouveau moteur qui s'appelle le LEAP. Ça veut dire quoi d'ailleurs, le LEAP? Ça veut dire quelque chose sûrement?
Oui, ça veut dire en fait, en gros, nouvelle génération de avancée de moteurs d'avion.
Voilà. Mais il faut bien dire que la langue de l'aéronautique, c'est l'anglais.
Tout, oui, hein,
au salon du Bourget, on parle plus facilement l'anglais que le français. Alors est-ce qu'on peut dire, Jean-Paul Lebonga, que les nouveaux moteurs font les nouveaux avions?
On peut le dire, je pense, parce que en fait, quand on regarde les deux principaux avions du moment, que sont l'A320neo d'Airbus et le Boeing 737 MAX, l'essentiel de des transformations apportées par rapport à la génération actuelle, ce sont des nouveaux moteurs.
C'est-à-dire que vous avez, grâce à vos nouveaux moteurs, évité aux avionneurs, que sont Airbus et Boeing, de réfléchir à des nouveaux avions?
Ah non, pas du tout. En fait, avec les avionneurs, on est partenaires. Tous ensemble, on travaille tous ensemble pour apporter des solutions toujours plus innovantes, toujours plus économiques, sur le plan non seulement financier, mais aussi environnemental. Et c'est vraiment un travail collaboratif sur le plan mondial.
Alors, pour qu'on ait une petite idée, ce nouveau moteur, qui ne vole pas encore, hein, il est en développement. Personne n'a jamais volé sur un CFM.
Enfin, si, ce moteur, il est en vol. Il est en vol en particulier sur la 320neo à Toulouse depuis le 19 mai. Et il vole tellement bien qu'en ce moment, lors de la campagne d'essai en vol, on est à 2 vols par jour. Et tous les retours que l'on a, que ce soit des pilotes d'essai d'Airbus ou des ingénieurs d'Airbus, c'est que c'est un moteur exceptionnel.
Alors ce que je voulais dire, c'est qu'un passager lambda n'a jamais volé avec un avion propulsé par un moteur LEAP. C'est ça que je voulais dire.
Non. Les premiers passagers auront le privilège de voler avec un LEAP l'année prochaine.
Sur un A320
Neo.
Neo. Alors, Antoine, ce moteur de la nouvelle génération et le précédent, c'est quoi la différence?
Mais il y a des différences significatives. Il y a des différences, par exemple, sur le plan des performances. Par exemple, en termes d'économie de carburant, cette nouvelle génération de moteurs permet d'économiser 15% du carburant. Mais économiser du carburant, c'est aussi produire moins de CO2. Donc c'est un moteur qui est bien plus performant sur le plan environnemental. Et puis, toujours sur le plan environnemental, avec les nouvelles technologies, ça permet de réduire le bruit. Et par exemple, un avion équipé de LEAP ne pourra pas être audible au-delà du périmètre d'un aéroport.
Donc, moins bruyant qu'une mobylette mal réglée.
Voilà, exactement.
En quelque sorte. Alors, Pascal Pincemin, on fait un petit peu d'histoire avec vous. Je disais en introduction que l'aéronautique était une passion européenne. On a bien compris que ATR, c'est une coopération franco-italienne. Airbus, c'est une coopération européenne. CFM, une coopération franco-américaine. Mais au début, et même pendant très très longtemps, les entreprises aéronautiques étaient des entreprises nationales, françaises, britanniques, allemandes. Alors, à quel moment le besoin de coopérer s'est-il manifesté? Pourquoi ?
Bah, je pense que c'est venu avec la nécessaire globalisation et puis les exigences de produire des volumes toujours plus importants, d'avoir recours à de l'innovation en constante évolution. Et les constructeurs sont devenus des assembleurs qui font recours à une multiplicité de sous-traitants qui se trouvent un peu partout dans le monde. Et au plan, je dirais, politique au fond, puisque il s'agissait aussi de la souveraineté des différentes zones géographiques. Les Amériques, l'Europe, s'est bâtie aussi sur la souveraineté en construisant des champion européen pour faire face à la concurrence qui se développait ailleurs, et notamment aux États-Unis.
Yann Cochet, il y a quelques années, il y avait encore des constructeurs nationaux, ça n'existe plus, il n'existe plus un seul constructeur national, à une exception près, évidemment, Dassault en France.
Oui, mais enfin bon, dans d'autres parties du monde, nous avons encore des constructeurs nationaux. Les Chinois sont un exemple assez évident et ambitieux, même si c'est de l'ambition à long terme, d'une réalité nationale. Donc il est clair que l'union fait la force, et je crois que c'était le bon chemin qu'a pu prendre l'Europe, alors soit dans le bilatéral, soit à plusieurs.
Pascal Pincemin, donc cette nécessité de coopérer, est-ce que ça veut dire qu'à un moment les pays n'étaient plus capables de construire parce que les armements étaient de plus en plus compliqués, il fallait investir de plus en plus et que les pays, les constructeurs nationaux n'étaient plus en mesure de développer eux-mêmes des programmes?
Il y a eu une parcellisation de l'industrie à une certaine époque, et il y a eu une nécessaire concentration dans ce secteur-là comme dans d'autres pour être et rester compétitif. C'est une course à la taille, une course à la compétitivité, la rentabilité. Voilà. Et en Europe en particulier, il y avait aussi un aspect politique de souveraineté, je dirais.
Yann Cochenac, il y a quand même, il faut en dire un petit mot, parce que aujourd'hui, il y a aussi un avion qui était la vedette de ce salon. Alors, on a dit un mot sur la 350, un mot sur le 787, mais il faut évidemment dire un mot sur le Rafale, qui est le contre-exemple. Un avion 100% français, un avion militaire cette fois-ci, c'est le contre-exemple d'Assaut. Mais c'est l'exception qui confirme la règle ?
D'une certaine façon, oui. Mais n'oublions pas quand même qu'à l'origine, le Rafale devait être le fruit d'une coopération européenne, réunissant le Suédois Saab, voire même des Italiens, si ma mémoire est bonne. Les choses ne se sont pas faites. Je crois que ça a été un choix français et un choix industriel. Et on s'aperçoit que forcément, le militaire ne peut être comparé au civil. On s'aperçoit que les programmes de coopération militaire s'avèrent être des gouffres financiers. Alors, je ne dis pas que le Rafale n'a pas coûté cher à la France, puisque en étant seul, ça a forcément coûté plus cher. Mais on s'aperçoit aussi que les différentes exigences des différents pays partenaires d'un programme d'avions de combat ne peuvent que, je dirais, alourdir la note au final. C'est le cas de l'Eurofighter, par exemple.
Qui lui a été conçu en coopération avec des Italiens, des Allemands et des Britanniques.
Exactement. Ça, c'est un exemple assez probant. J'en avais un autre en tête, mais qui est, lui, le fruit d'une coopération transatlantique, c'est-à-dire le F-35, l'avion de combat des Américains, auquel participent des Italiens et des Britanniques.
Et qui a beaucoup de mal à voir le jour.
Mais là, c'est pas tellement le fruit de. Enfin, le problème d'un partenariat difficile, hein, c'est plutôt le résultat peut-être d'une technologie ou de deux technologies mal maîtrisées encore. Parce que c'est beaucoup plus long.
Le succès du Rafale, qui a été très tardif, puisqu'entre le moment où il a volé et le moment où il s'est vendu, il s'est écoulé combien, Yann Cochet, j'ai soudain doute, une vingtaine d'années, pratiquement.
On n'ose pas compter les années.
Voilà, on n'ose pas compter, en tout cas une vingtaine d'années. Mais on y a en lumière une autre caractéristique de l'industrie aéronautique, le temps. Il faut beaucoup de temps pour lancer des avions et pour les rentabiliser, Patrick de Castelbaljac.
Alors il faut du temps pour bien faire les choses. D'abord parce que effectivement on est souvent dans notre domaine sur des coopérations internationales, parce qu'en général quand on aborde des questions en venant d'horizons différents, souvent on arrive à une solution qui est plus robuste et qui techniquement est plus aboutie. Dans notre domaine aussi, il y a quand même un élément qui est absolument central dans la logique de chacun d'entre nous, qui est la sécurité. On ne prend aucun risque. Donc on a ce devoir, on a cette obligation qui est absolue. Et donc à partir de là, on a à chaque fois à trouver des équilibres entre d'un côté la recherche d'une technologie toujours plus poussée, avec des exigences de nos clients toujours plus difficiles, et en même temps nous-mêmes réconcilier ça avec une exigence de sécurité, encore une fois, qui est un absolu. Et ça prend du temps. Et on passe par les certifications. On a vu, nous, on doit être certifié aujourd'hui à la fois au niveau européen, avec l'EASA, on doit être aussi certifié avec la FAA américaine. On voit que ça prend du temps. Les Chinois viennent de prendre 25 ans pour faire certifier leur premier avion pour les Américains.
Et il ne vole pas encore. Si, il est sur le point de voler.
Il a volé il y a bien longtemps, ouais. Mais le temps de le faire certifier, ouais, c'est extrêmement complexe, puisqu'on doit non seulement faire certifier l'avion lui-même, mais la manière dont on l'a développé, la manière dont on le fabrique, la manière dont on va le maintenir et dont il sera opéré.
Alors Jean-Paul Lemonga, je suis en train de dire, Patrick Vassal-Baljac me donne la question, est-ce qu'on a une coopération franco-américaine, tout est plus facile? Parce que les deux grands certificateurs sont d'un côté des Européens et de l'autre côté des Américains.
Je ne sais pas si c'est en ces termes qu'il faut présenter les choses. Je pense que CFM est la démonstration même que lorsque les Français, en l'occurrence à l'époque, mais on va dire aujourd'hui les Européens, croient en eux et sont capables de mettre sur la table le meilleur de leur savoir-faire avec les Américains, on part d'une vision, d'une feuille blanche et on en crée un leader mondial. Et ça, je pense que c'est plein d'enseignements. Ensuite, pour rebondir sur ce que disait Patrick, je pense qu'il faut que les auditeurs apprécient la complexité des produits que l'on conçoit et que l'on fabrique. Un moteur d'avion, aujourd'hui, il est capable de fonctionner de façon nominale, qu'il soit en taxi, enfin sur le runway de Dubaï à 50 degrés, ou à 30 000 pieds à moins 50 pour faire simple, de décoller de l'altiplano en Amérique latine dans des conditions extrêmes, mais aussi d'être utilisé par exemple sur le P-8 américain qui est un avion de la Navy qui fait de la détection et donc qui vole à ras des flots et absorbe de l'eau de mer à longueur de journée, et le tout en ayant des fiabilités de l'ordre de 20 000 heures. Et si j'essaye de faire une correspondance à ce que tout le monde peut comprendre, c'est-à-dire, par exemple, tout le monde a une voiture, donc voilà, ça serait une durée de vie voilà d'un moteur, ça serait l'équivalent d'user 20 voitures les unes à la suite des autres. Voilà, c'est ce qu'on fait. On est capable de faire un produit qui tient toutes ces conditions-là, et qui est 20 fois plus fiable qu'une voiture.
Qui est dur.
Voilà.
Alors, combien de temps il faut pour lancer un moteur? Ça, le moment où on dit, voilà, on va lancer un nouveau moteur, puis le moment où il commence à équiper les avions. Alors, est sur quelle distance?
En fait, il faut différencier deux choses. Il faut différencier le développement d'un moteur, qui dure en gros 4-5 ans. Donc c'est à partir du moment où on décide de le lancer et le moment où les premiers clients volent avec. Et la durée de développement des technologies que l'on va utiliser. Par exemple, sur le LEAP, il y a des technologies qui ont commencé à être conçues, si je puis dire, il y a 20 ans. Et il a fallu 20 ans, par exemple, le LEAP est équipé d'une technologie carbone, de composite carbone en 3 dimensions. Tout l'avant du moteur est en carbone. C'est une première mondiale. C'est une technologie qui permet d'apporter des gains de masse de l'ordre de 25% et des tenues mécaniques sans rapport avec le métal. Et bien, cette technologie-là, elle a été initiée il y a 20 ans et ensuite il a fallu la maturer dans notre jargon pour être sûr que l'année prochaine, lorsque les premiers passagers voleront avec, cette technologie tiendra toutes les conditions que j'ai décrites avant.
Alors, il a fallu une vingtaine d'années pour en arriver là. Et une fois que le moteur est accroché à l'avion, l'avion dure des années et des années. Parce que c'est un ATR de 25 ans, c'est presque un jeune avion.
Bah écoutez, on a des ATR qui volent qui ont plus de 25 ans et on en a qui ont 30 ans. Et effectivement, un programme avion dure 30 ans. Regardez l'immense succès qui a été le 737. Il est entré en service dans les années 60. Aujourd'hui, il a encore une longue vie devant lui.
On l'a compris, l'aéronautique l'aéronautique une industrie à la fois passionnante, où il faut beaucoup d'argent, beaucoup investir, à savoir gérer le temps. Faire une petite pause sur RFI, la radio de l'Europe et du monde, juste le temps des infos, et on va se retrouver très rapidement, dans 3 minutes, très exactement. À tout de suite.
Europejskie.
Cruzamento da Europa.
Rozkrucia Europy.
Stavrodromitis Europis.
Treffpunkt Europa.
The Hub of Europe.
Carrefour de l'Europe.
Daniel Desesquel.
Guillaume Meunier.
Bonjour, bonsoir, Carrefour de l'Europe, deuxième partie. Nous sommes toujours au salon aéronautique de l'espace. Alors si dans les allées du Bourget, le match entre Boeing et Airbus agite les esprits, il y a derrière le succès de l'avionneur européen des centaines d'industriels aux quatre coins de l'Europe qui s'activent dans le domaine des hautes technologies. Ils construisent des moteurs, aménagent des cabines, améliorent sans cesse l'avionique des cockpits. L'aviation est née en France avec le vol de Clément Ader, c'était en 1890. Et depuis, l'aéronautique reste une passion européenne et un domaine de prédilection. Je vous présente rapidement nos invités. Patrick de Castelbalzac, président d'ATR. ATR, ça veut dire avion de transport régionaux, qui nous accueille dans son chalet. Jean-Paul Ebanga, président de CFM International, un motoriste essentiel, et que serait un avion sans moteur. Pascal Pincemin, associé au cabinet Deloitte en charge de l'aéronautique. Et Yann Kochnek, rédacteur en chef d'Air et Cosmos, la revue qui fait référence dans le monde de l'aéronautique. Alors Pascal Pincemin, quels sont les points forts de l'aéronautique européenne, on va dire par rapport aux Américains, par exemple?
Je ne sais pas s'il y a des points forts par rapport aux Américains. Ici,
il doit y en avoir quand même.
Enfin, le premier point fort, oui, le premier point fort, c'est que cette industrie existe en Europe et qu'elle est extrêmement puissante et qu'elle est de nature à concurrencer l'industrie américaine, très clairement, puisqu'il y a encore ce duopole. Après, c'est l'industrie dans son ensemble, au plan mondial, qui est forte. Parce que vous avez vu les prévisions de demande de transport, de trafic, sur les 20 prochaines années, c'est 6% par an. Il n'y a pas d'autre industrie dans le monde qui puisse afficher des perspectives de croissance durable et robuste, parce qu'il n'y a pas de bulle aussi lointaine. Donc l'industrie est forte. Après, il y a des enjeux, parce qu'il faut livrer tous ces avions dans les délais prévus et en qualité. Et ça met en tension en fait tous les acteurs que vous décriviez, non seulement les constructeurs qui assemblent, mais la chaîne, l'écosystème, je dirais, de leurs sous-traitants.
Patrick de Castelbajac, vous confirmez, c'est vous qui avez dit si quand même l'aéronautique européenne, elle a des atouts face aux Américains.
Je pense qu'elle a des atouts parce que, encore une fois, pour moi, une des clés du succès d'Airbus, ça a été de s'enrichir des différences européennes. C'est-à-dire de ne pas dire on va tous se mettre derrière le drapeau français et avancer, c'était de dire on va s'enrichir de nos différences et là-dessus essayer ensemble de faire le meilleur avion possible. Et je pense que c'est ça qui a fait quelque part la réussite d'Airbus et aussi derrière la réussite de la Terre aussi avec une autre forme de coopération.
Alors Yann Kochnek, vous qui êtes un observateur à la tête d'Air et Cosmos, les points forts de l'aéronautique européenne, est-ce qu'à un moment elle a été en grande difficulté, est-ce qu'elle a rebondi ou est-ce qu'elle a toujours été brillante? Et on entend derrière nous un peu les avions, car évidemment il ne faut pas oublier, au Bourget il y a beaucoup d'avions qui volent et ça en fait une grande partie du charme. Yann Kochnek.
Oui, il y a eu des périodes de creux bien entendu, il y a eu des périodes de doute. ATR est un très bel exemple d'une réussite, d'une période de doute et du retour du succès. Nous étions très peu nombreux au moment difficile à encore venir voir les gens d'ATR. Ça, je me souviens de ça. Oui, c'est une des périodes de succès, de doute, et puis le retour du succès parce que au départ, il y a l'innovation, le souci, la volonté d'entreprendre, de ne jamais douter, de continuer à aller de l'avant. Je crois que c'est ça.
Jean-Paul Banga, alors CFM, on le rappelle, une société franco-américaine, 50% Snecma Safran, 50% General Electric. Qu'est-ce qui a séduit General Electric dans son alliance avec Snecma Safran? C'était il y a une trentaine d'années?
Plus précisément, puisqu'on a fêté l'année dernière les 40 ans de la JV.
Alors, qu'est-ce qui a séduit à un moment les General Electric? Je suppose qu'ils pouvaient faire alliance avec une multitude de motoristes. Ils étaient assez nombreux à l'époque. Qu'est-ce qui a séduit les Américains de dire, finalement, on va le faire avec les Français?
Alors déjà, ce qui s'est passé en réalité, c'est que l'idée de base est venue des Français. Et ce sont les Français.
Ils sont allés chercher les Américains.
Voilà, c'est les dirigeants de Snecma de l'époque, en particulier René Raveau, le PDG de Snecma, qui est allé aux États-Unis. Il avait la vision de rentrer de façon substantielle sur le marché civil. Il était conscient que Snecma, à l'époque, avait un savoir-faire essentiellement de moteurs militaires. Et il a donc naturellement cherché une alliance complémentaire qu'il a trouvée chez General Electric. Et là où c'est autant une histoire de technologie qu'une histoire d'homme, c'est que l'entente entre les deux dirigeants historiques et de Snecma et de GE Aircraft Engine, comme ça s'appelait à l'époque, pour mettre sur le marché des monocouloirs un moteur révolutionnaire, cette entente a permis de braver finalement tous les obstacles de l'époque, y compris une certaine réticence du gouvernement américain de mettre à disposition d'une alliance franco-américaine les meilleures technologies américaines, et qui fait que CFM est ce qu'elle est aujourd'hui.
Entre parenthèses, une grande réussite.
Exactement.
On peut dire quand même combien de moteurs vous fabriquez par an ?
Oui, on fabrique actuellement 1600 moteurs par an. Alors, par rapport à des productions de téléphones, ça peut sembler pas grand-chose.
Mais c'est pas le même prix.
Voilà. Pour situer les ordres de grandeur, comme vous le disiez, ce Bourget, pour nous, est un très bon cru. On a gagné plus de 800 commandes, qui représente 14 milliards de dollars. Donc les moteurs, c'est des objets qui coûtent assez cher.
Alors, pour que les auditeurs comprennent bien, à ma gauche 14 milliards, à ma droite 2 milliards. On comprend bien que l'industrie aéronautique, c'est une industrie, évidemment, on l'a dit, de passion, hein, vous l'avez expliqué, d'hommes, mais aussi d'investissement, de vision, et évidemment qui finit par apporter beaucoup d'argent. On peut rappeler, Pascal Pincemin, ce qu'a représente l'industrie aéronautique dans le commerce extérieur français, puis peut-être en Europe. C'est des chiffres que vous avez en tête ?
Je n'ai pas ces chiffres en tête.
Mais beaucoup.
Mais c'est beaucoup.
C'est important.
C'est beaucoup,
hein.
Mais si, prenons un seul chiffre pour une compagnie, par exemple Airbus, Fabrice Brégier l'évoquait l'autre jour, c'est, ne serait-ce que dans la recherche et développement, c'est 3 milliards d'euros par an. Et le secteur dans son entier dépense 14% de son chiffre d'affaires consolidé en recherche et développement. Donc je ne fais pas les chiffres globaux sur l'activité, mais c'est un secteur en croissance où l'innovation est la clé du développement futur et où il y a des masses très considérables en jeu, en fait, pour rester au niveau.
Jean-Paul Lebanga. Oui,
si je puis me permettre, en termes de chiffres, il y a également des chiffres intéressants à avoir en tête, là qui sont plus des chiffres du domaine de l'aviation commerciale. Par exemple, comme on est au carrefour de l'Europe, parlons de l'Europe, l'aviation commerciale, en termes de création d'emplois directs et indirects, c'est environ 12 millions d'emplois en Europe. Donc c'est des chiffres significatifs. L'aviation et les technologies modernes qui permettent finalement de faire que la planète, c'est un grand village mondial. Si je prends par exemple ce que permet le cargo aérien, hein, en termes de transport de denrées périssables comme des fruits et légumes ou des fleurs, entre l'Afrique et l'Angleterre, le Royaume-Uni, c'est 1 million de personnes en Afrique dont les revenus dépendent de la capacité de l'aviation à faire ce cargo et donc ces transits de denrées périssables tous les jours. Donc l'aviation sur le plan mondial, au-delà des constructeurs et des compagnies aériennes, c'est un vrai vecteur de développement, pas seulement en Europe, mais de par le monde.
Pascal Pincemin.
Sur les volumes, il y a des volumes impressionnants. On sait qu'il faudra livrer entre 35 et 40 000 avions dans les 10 ans qui viennent, pour les 20 ans qui viennent. Donc quand vous voyez qu'il y a un duopole et qu'il y a Airbus en Europe et Boeing aux États-Unis, ça va apporter de l'activité à l'Europe. Et effectivement, je confirme ce que disait Jean-Paul Lebanga sur l'emploi. C'est un secteur qui est éminemment porteur d'emplois futurs et qu'il faut absolument conserver en état. Et donc, c'est aussi un aspect de souveraineté au niveau européen pour nous. Donc, les États ont un rôle à jouer pour la défense de ce secteur.
Alors, Patrick de Castelbajac, on ne l'a pas dit, mais c'est important. Aujourd'hui, c'est plus difficile de produire que de vendre, car il faut, une fois qu'on a vendu, il faut livrer. Et c'est pas si facile que ça. Par exemple, si je commande dans la foulée de cette émission un ATR, vous me le livrez quand ?
En 2018 ou 2019, parce que la difficulté, c'est la supply chain, c'est-à-dire ce sont ces centaines et ces milliers d'entreprises, certaines très grandes et d'autres qui sont des grosses PME, voire des petites PME, et qui alimentent, et tout ce tissu industriel est très très fort en Europe. C'est effectivement des milliers, des dizaines de milliers d'emplois. Mais ces gens-là, aujourd'hui, sont obligés d'investir pour suivre cette montée en cadence très, très forte. Et effectivement, moi, j'ai du mal à monter en cadence plus vite que je ne le fais, alors que la montée en cadence d'ATR, c'est 60% en 5 ans. Donc, c'est considérable.
Aujourd'hui, enfin, cette année 2015, vous allez livrer combien d'avions ?
On va livrer environ 90 avions, un peu plus de 90 avions. Il y a...
C'est-à-dire un tous les trois jours pratiquement, jour ouvrable.
Un petit peu moins que ça, mais c'est déjà considérable. Et encore une fois, on est à 90. Il y a 4 ans, on était à 64.
Yann Kochnek, d'ailleurs, au Salon du Bourget, il y avait tout un grand espace consacré au métier, car c'est un secteur qui recrute et qui a du mal à recruter, Yann Kochnek.
Il y a des compétences qui ont disparu au fil du temps. Et la filière aéronautique a désormais du mal à retrouver ces compétences qui ont disparu, ou des compétences qu'on trouvait dans d'autres secteurs industriels, des secteurs industriels européens sinistrés, on peut le dire, la métallurgie, la chaudronnerie. Et du coup, il y a des filières de formation qui ont disparu, puisqu'il n'y avait plus de besoins, ou moins de besoins, et manque de chance pour le secteur aéronautique. Eux, ils en ont grandement besoin, et ils sont confrontés à une pénurie de certains métiers. Il ne faut pas non plus noircir le tableau. Mais il y a, sur certains métiers bien pointus, une réelle pénurie de main-d'œuvre.
Pascal Pincemin.
Oui, je crois que c'est un secteur qui est peu connu finalement et qui est un peu déclassé auprès des jeunes en fait sur le marché du travail parce qu'il y a des métiers passionnants et ce sont des métiers de compagnonnage en fait, en quelque sorte. On parle de la chaudronnerie, les gens qu'on voit dans les lignes d'assemblage chez Airbus par exemple, en France, en Allemagne, en Angleterre, en Espagne, ce sont des compagnons, des gens qui ont l'art l'amour de la belle ouvrage. C'est du travail ciselé de précision. Encore une fois, la qualité n'est pas négociable. Donc moi je pense qu'il faut faire connaître beaucoup plus ce secteur et les possibilités qu'il offre dans des métiers techniques qui sont de beaux métiers.
On voit aussi que ATR, Airbus et en fait la plupart des grands acteurs, on est en train de monter des partenariats avec des écoles justement pour former des compagnons de plus en plus sur des métiers qui sont un peu en manque et on est de plus en plus en avance là-dessus pour aller chercher des jeunes et même des jeunes de 15-16 ans, les former pour ensuite qu'ils puissent entrer en apprentissage chez nous et c'est vraiment une des clés de la réussite de demain, c'est vraiment arriver aujourd'hui à développer et à retrouver ces métiers-là.
Carrefour de l'Europe, Daniel Desesquelles.
Carrefour de l'Europe, nous sommes au Bourget. L'aéronautique, un domaine d'excellence en Europe. Alors, il y a les Européens, il y a les Américains, et puis il y a aussi tous les émergents, les Chinois, les Coréens, les Indiens, les Russes, les Brésiliens. Le marché est porteur. Il y a beaucoup de tentations d'être présent sur ce marché pour tous ces pays. Où en sont-ils ? Ils étaient très présents il y a 4 ans. J'ai l'impression qu'ils le sont un peu moins aujourd'hui, en tout cas au Salon du Bourget. C'est peut-être une impression qui veut rebondir, Pascal Pincemin ?
Peut-être un premier commentaire. C'est vrai que ces pays-là s'inscrivent d'ailleurs d'abord dans la longue durée, que ce soit la Chine ou l'Inde. Et aussi, on fait le constat que c'était pas si facile à faire. Donc c'est pour ça que l'avion chinois, il va tarder à venir. Mais il viendra avec certitude. Je dirais dans 10-15 ans, ces pays-là seront des pays qui romperont probablement le duopole qui existe aujourd'hui, en tout cas qui le mettront fortement en tension.
À partir de Castelmajac, justement, vous avez sûrement un mot à dire sur l'avion chinois, car si on se balade sur le stand de la Chine, je crois que l'entreprise s'appelle Catic, hein, c'est ça, on a une maquette, non pas l'avion en réalité, on l'a pas vu voler en tout cas au Bourget, il me semble en tout cas qu'il ressemble beaucoup à certains ATR.
En fait, effectivement, beaucoup de nouveaux entrants, non seulement donc d'abord les Chinois qui veulent faire jeu égal, il y a un aspect de souveraineté évident avec l'Europe et les États-Unis, et puis à plus petite échelle, moi je le vois sur le régional, on a les Indonésiens qui ont lancé un programme, on a les Turcs qui viennent en lancer un, on a les Russes qui en relancent un, parce qu'il y a un vrai besoin partout dans le monde. Le nombre d'avions, ça a été dit tout à l'heure, va doubler en 15 ans, et c'est une industrie qui a le vent en poupe, ça avance, et tout le monde veut faire partie de ça. Maintenant, la grande difficulté, c'est que c'est d'une complexité immense. C'est-à-dire, les moteurs eux-mêmes sont d'une capacité, d'une complexité très très grande, mais faire un avion intégrer tout ça, ça l'est également. Je parlais tout à l'heure de l'obligation de sécurité, mais il y a une vraie complexité technique extrêmement forte, extrêmement poussée, dont tout le monde n'a pas forcément conscience, parce qu'aujourd'hui, quand on prend l'avion, on ne se pose plus la question. La question qu'on se pose, c'est est-ce que ça a été confortable? Est-ce que j'aurai ma boisson chaude, etc. Personne ne se dit plus. Mais au fond, est-ce que mon avion est bien arrivé? Est-ce que j'ai un sentiment d'insécurité en volant? est-ce que techniquement je risque quelque chose? Tout ça c'est fini parce que ça fait des dizaines d'années que toute l'industrie se bat pour améliorer ça. Maintenant, les nouveaux entrants, il va falloir qu'ils arrivent au même standard et c'est quelque chose qui va prendre beaucoup de temps. Maintenant, ça nous force, nous, entre guillemets les anciens, à être plus compétitifs, à être plus innovants, parce que c'est ça la clé du succès de demain.
Alors Jean-Paul Lebanga, les nouveaux entrants, ils vous intéressent? On a dit évidemment que CFM motorisait la quasi-totalité, pour ne pas dire 100% des Boeing 737, en gros un Airbus A320 sur deux, mais ce nouveau moteur qu'on a évoqué dans la première partie, le CFM LEAP, il va équiper aussi un avion chinois.
Tout à fait. Je voulais juste corriger, on équipe tous les 737.
Oui, tous les 100% des 737.
Exactement. Oui, et effectivement, on équipe aussi le nouvel avion chinois, le C919, qui joue dans la catégorie, en gros, de l'Airbus A320 ou de Boeing 737.
En gros, des avions court-courriers, monocouloir, autour de 150 passagers.
Voilà. Et je suis d'accord avec ce qui a été dit précédemment. Tous ces pays sont dans un cursus de développement qui fait qu'ils s'industrialisent de plus en plus et ils ont vocation à suivre un peu la même trajectoire de développement que l'Europe et les États-Unis. Donc ce seront des acteurs de demain. Et la question qui se pose, c'est comment les intégrer dans le jeu qui était aujourd'hui partagé avec le duopole dont vous parliez.
Alors Dean Kochnek, quand on se balade entre les avions sur ce qu'on appelle le statique, un grand tarmac, un grand parking où il y a des dizaines et des dizaines d'avions, ce qui frappe c'est les pavillons des avions. Il y avait des avions de Qatar Airways, il y avait des avions de Vietnam Airlines, à terre vous aviez un avion d'Air New Zealand. Alors on a d'un côté à l'évidence un marché qui est autour de l'Asie-Pacifique et de l'autre côté des productions qui sont centrées soit aux États-Unis soit en Europe. Ça peut durer longtemps, ce décalage entre le marché en Asie-Pacifique et puis des producteurs centrés en Europe et aux États-Unis.
Alors avant de répondre à cette question, je rappellerai qu'il est un peu difficile de qualifier la Russie de pays émergent en matière aéronautique.
Bien évidemment.
Alors c'est vrai que leurs meilleurs talents ont été aspirés vers le militaire et le spatial, mais il est clair qu'ils ont une réelle capacité. On voit bien d'ailleurs, et c'est aussi le fruit d'une coopération, puisque Snecma motorise en partie le Sukhoi Superjet, mais on voit bien que le Sukhoi Superjet, première étape de la renaissance de l'industrie aéronautique russe dans le civil, vole, lui, il vole bien, tandis que le projet chinois équivalent, lui, a attendu beaucoup de temps avant d'être certifié. Donc voilà, ça c'est ma première remarque.
Ça veut dire que rien ne remplace les années d'expérience, on peut dire.
Rien ne remplace, et c'est pour ça que je pense, et M. Pincemin a tout à fait raison, ils y viendront, mais ils mettront le temps. Donc tout l'enjeu pour nous, Européens, et pour nos partenaires américains, dans le cas de M. Mangard, c'est de garder l'avance, c'est tout.
Pascal Pincemin, sur ce thème, ce décalage entre le marché et tous les chiffres disent, le marché il est dans la région Asie-Pacifique et puis les constructeurs qui sont évidemment centrés en Europe et...
Le marché il est mondial au sens où ce qui est dans la région Asie-Pacifique c'est la croissance de la demande de transport qui tire la demande d'avions, mais les passagers ils vont d'un point A à un point B mais c'est vrai, votre question est bonne. Quand on regarde Airbus a des lignes d'assemblage en Chine, aux États-Unis, en Europe, et les déplacera où il faudra. De même que on parle peu, mais les activités de maintenance de MRO devront suivre aussi. Et celles-ci, elles sont localisées aux endroits où les avions sont parqués, où on les fait atterrir pour les entretenir. Donc c'est déjà le cas, en fait. On peut pas dire que l'activité est en Asie et que l'industrie est en Europe ou aux États-Unis. L'industrie, elle est d'origine européenne ou américaine, mais elle est globale aujourd'hui, avec des implantations industrielles partout où c'est nécessaire.
Paris de Castelbal-Jacoulier, ajoutez un petit mot.
Juste abonder en ce sens, effectivement, que ce soit ATR, moi j'ai des sections d'avions qui sont fabriquées en Chine, Boeing a des sections et des parts extrêmement importantes de ces avions qui sont fabriqués au Japon, donc on a tous, et Airbus a une file en Chine, etc. Donc en fait, c'est vraiment une industrie totalement mondialisée.
On vient de le dire, une industrie mondialisée, tout se fait en coopération, souvent européenne. Alors, français, allemand, espagnol dans le cas d'Airbus, français, italien dans le cas d'ATR. C'est difficile cette vie au quotidien entre Européens, entre les Italiens et les Français. Ça se passe comment au quotidien, Patrick de Castelvalgeac?
Vous savez, moi, mon père était français, ma mère est irlandaise. Donc moi, je baigne là-dedans, je suis tombé dedans quand j'étais petit. Non, ça se passe très bien. Je pense que, encore une fois, il y a quelque chose qui anime notre industrie plus, j'ai envie de dire, qu'aucune autre, c'est vraiment la passion. C'est vraiment la passion qui fait voler les avions, c'est pas autre chose. Et au fond, quand on a cette passion et quand on la partage, qu'on soit de nationalités différentes, je suis pas sûr que ce soit un obstacle.
Alors, évidemment, Patrick de Castelvalgeac a une vision, je dirais, un peu idyllique de la coopération franco-italienne. Il est d'ailleurs payé pour ça. Yann Kochnek-Wood, qui est un observateur qui avait un peu de recul. On voit bien que, par exemple, lorsqu'il a fallu construire la 380, entre les Français et les Allemands, ça s'est pas si bien passé que ça. Il y avait des problèmes de câblage, on n'arrivait pas à remettre les morceaux, c'est comme un Lego, il y avait quand même un petit problème. On dit avec l'accident de la 400M que finalement, évidemment, quand même, malgré tout, les Espagnols, ils sont pas aussi précis, aussi fignoleurs que les Allemands. Alors, vous qui avez un regard un peu extérieur, cette vie des Européens, qu'est-ce que vous en pensez?
C'est la question à 1000 dollars, comme on dit à Cincinnati. Non. Je crois que les vies en couple ou à plusieurs sont toujours...
La politique européenne.
C'est toujours animé de toute façon, à un moment ou un autre. Il est clair que chaque partenariat traverse des moments de tension et il est clair que ces tensions s'accentuent, s'exacerbent quand ça va moins bien. Et c'est clair que chacun essaye à ce moment-là de tirer un peu la couverture à lui, si vous me permettez l'image. Mais on voit bien que, et c'est là où l'exemple d'ATR est quand même assez remarquable, c'est que malgré le doute, malgré la période de creux, bon, les partenaires italiens et français ont réussi à surmonter leurs doutes respectifs pour continuer à aller de l'avant. Et c'est pour ça que ATR cartonne aujourd'hui. C'est que c'est cette capacité à avoir réussi à surmonter ces égoïsmes nationaux au bon moment, c'est-à-dire au moment où ça allait mal, pour justement se dire non, il faut continuer, soyons capables de continuer à travailler ensemble, même si ça va mal, parce que l'avenir sera meilleur. Et le calcul a été juste, puisque l'avenir est bien meilleur.
Patrick de Castelvalgeac, avant d'être à ATR, vous étiez à Airbus, donc vous connaissez bien cette coopération européenne, ce vivre ensemble, ce laboratoire de la vie en commun, qui est une société de la vie en commun entre Européens, qui est Airbus. Racontez-nous un petit peu quelques petites anecdotes, c'est pas si facile que ça, ça peut être excitant, j'imagine, ça peut être passionnant, mais voilà, c'est difficile ou pas?
En fait, je suis rentré chez Airbus.
Qui s'appelle Carrefour de l'Europe.
Alors, je suis rentré chez Airbus, il y avait 25 personnes dans le couloir, 16 nationalités. Donc beaucoup d'Européens, mais pas seulement. Le directeur commercial d'Airbus depuis à peu près 20 ans est un Américain. Voilà, le directeur des programmes était un Anglais. Maintenant c'est un Français, un Allemand à la production. On essaye vraiment. Je crois qu'on a passé le cap du passeport pour le poste. Et c'est ça aussi la réussite d'Airbus, et c'est ça aussi la réussite de cette industrie, je pense, c'est quand même avoir passé ce cap-là. C'est-à-dire, effectivement, il y a la tentation, et ça vient d'être souligné, dans les coups durs, dans les moments difficiles, de pointer un peu l'autre du doigt. Maintenant, la réalité quand même aujourd'hui, c'est que ces sociétés-là réussissent, et nous réussissons, parce qu'on arrive à dépasser ça. Alors, effectivement, ça donne lieu parfois à des échanges un peu amusant, parce que tout le monde parle franglais ou germano-anglais ou que sais-je, et on ne se comprend pas toujours, et c'est pas toujours simple, et au quotidien c'est une complexité, mais je pense que le bilan net est quand même très largement positif.
Dans une émission comme celle-ci, on s'interroge souvent pour savoir s'il existe une identité européenne, si elle est en train de naître ou pas. Vous qui avez été au cœur d'Airbus, qui est par définition, par essence même, une entreprise européenne, est-ce que vous êtes tenté de dire ou pas, hein, ou atterrir, qu'il existe une identité européenne qui naît à travers des coopérations industrielles?
Je pense qu'elle commence à naître. Et alors, c'est intéressant parce qu'elle n'est pas, elle est un peu polyforme. Elle n'est pas du tout ni française, ni allemande, ni anglaise. C'est quelque chose d'autre. Mais c'est quelque chose. Alors, la langue est l'anglais. Je veux dire qu'on le veuille ou non, c'est pas l'anglais d'Oxford, c'est un autre anglais.
qui est trop compréhensible par tout le monde, même par les Français, c'est ça.
C'est déjà une forme d'espéranto, parce qu'effectivement, on le parle à Toulouse avec l'accent toulousain, en Allemagne avec
l'accent bavarois,
sud, et en Angleterre avec un accent qui n'existe qu'en Angleterre, que ne comprennent pas les Américains.
Donc. Lorsque vous voyez des Allemands qui parlent français avec l'accent toulousain, croyez-moi, c'est pas mal.
Je vais parler manga. Vous, alors vous, une coopération évidemment franco-américaine, mais votre regard sur cette coopération européenne.
Oui, ben justement, je voulais mettre ça en perspective et je partage complètement ce qui vient d'être dit de par mon expérience de vie conjugale, voire polygame. Mais je voudrais mettre ça en perspective dans une période où l'Europe se pose plein de questions. Où l'Europe, d'une certaine façon, doute un peu d'elle-même par rapport à toutes ces menaces externes. Vous avez parlé des pays émergents et tout ça. Et je voudrais remettre ça par rapport à la leçon qu'on peut tirer de CFM. Si on se reprojette dans les années 70, quand cette entreprise est née, en France, parler anglais, c'était pas une évidence. Au fin fond du Midwest, engager son futur avec des Français, c'était pas évident. Eh ben, il y a des gens qui ont parié sur cet avenir commun, alors que plein de choses auraient dû les séparer. Et l'avenir est glorieux. Et donc aujourd'hui, alors que l'Europe doute d'elle-même, a peur de tout un tas de menaces venant de l'extérieur, mon message c'est ayons confiance. Prenons l'exemple de CFM pour se dire, quand on regardera les choses dans 20 ans, dans 30 ans, on se dira, mais c'est absolument formidable.
Alors prenons l'exemple de CFM, d'Airbus évidemment et d'ATR, bien évidemment, Patrick de Castelmajac, ça bat de soi.
Merci, oui, absolument. Je pense que c'est un bel exemple quand on s'est donné un but et qu'on partage une passion, on y arrive.
Merci en tout cas à tous les cas d'avoir été ici au Bourget, au Carrefour de l'Europe. Yann Kochnek, évidemment, grand bilan Bourget d'un Bourget.
C'est un très bon cru. Je crois qu'il ne faut pas chipoter sur un peu moins qu'il y a 2 ans, etc. L'essentiel, c'est que on continue à vendre des avions partout dans le monde et que ça continue à nourrir l'emploi France et en Europe.
Eric Osmos, donc dans les kiosques. Réalisation de cette émission, Guillaume Munier, complicité de Juliette Lequen. Merci, un grand merci à David Vargas d'ATR qui nous a beaucoup facilité les choses. Sur RFI.fr ou via les applications mobiles de RFI, vous pouvez réécouter cette émission et toutes celles qui l'ont précédée. Plein de choses vous attendent sur la page de Carrefour de l'Europe, sans oublier bien sûr les réseaux sociaux Facebook et Twitter pour rester en contact. Daniel Desesquel, où que vous soyez, en Europe, ailleurs dans le monde, sur la terre ou dans les airs. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Au revoir.